18h15, France Inter, à l'heure européenne. Ce soir, on part tout de suite en Hongrie avec vous, Fabienne Sintès. Jo Estet, Fabienne.
Ah là là, mais qu'est-ce qu'elle est douée, beaucoup plus que moi, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi je voulais le dire, Amélie, et puis finalement j'ai renoncé, on va pas le faire. Allez, le 18-20 spécial est à Budapest ce soir, soyez tous les bienvenus. Budapest, et pas seulement d'ailleurs, parce qu'on va traverser une partie de l'Europe centrale, on ira en Pologne, on ira en Roumanie. Ah ben voilà, on ira aussi jusqu'à Vienne au cours de ces 2 heures. Je vous emmène à la rencontre d'une Europe qui reste europhile mais qui change aujourd'hui peut-être un peu la couleur de l'Europe et de ses institutions. En tout cas, c'est le premier tronçon en quelque sorte d'une traversée de l'Europe que nous ferons régulièrement dans le 18-20. Première escale donc hongroise, parce que quand on parle aujourd'hui des pays qui font et qui transforment un peu l'Europe, c'est de la Hongrie d'Orban que l'on parle. Beaucoup de reportages ce soir, beaucoup d'invités aussi qui vous aideront, qui nous aideront tous, je l'espère. J'espère à sortir des clichés souvent attachés à ces pays. L'Europe est vaste. Et on a 2 heures, on est parti.
France Inter, Fabienne Sintès, un jour dans le monde, spéciale élection européenne.
Et c'est parti avec le premier invité. Bonsoir, Ludovic Pelletier-Koudachi.
Jo Estet.
Voilà, merci. Non, vous n'avez pas m'humilier tous pendant ces 2 heures. Ça va être terrible, comme votre nom l'indique, Ludovic. Vous êtes franco-hongrois, vous avez 32 ans, vous êtes directeur de publication du Courrier d'Europe centrale. Avant qu'on se parle de votre pays, j'aimerais que vous nous disiez où nous sommes ici, en fait, parce que c'est un endroit très particulier qui nous accueille à Budapest. On est dans une sorte de café alternatif, on dit ça comme ça.
C'est ça. Donc on est au Goya, qui est donc un bar assez emblématique de la contre-culture de Budapest.
Il paraît que ça veut dire cigogne.
Ça veut dire cigogne, parfait.
Tout ce que je voulais dire.
Qui existe depuis, sous une autre forme depuis 2010, qui est vraiment dans ses locaux depuis 5 ans. Ces locaux sont parlent un peu de l'histoire de la ville, parce qu'on est dans un ancien restaurant populaire d'un quartier populaire qui a été largement transformé au cours du XXe siècle et puis qui va bientôt disparaître malheureusement parce que le quartier se transforme.
Il est en train de changer, ça se voit, hein, il y a des choses extrêmement neuves qui sont installées juste à côté.
On a rasé des immeubles entiers et donc ce bar va devoir fermer ses portes et emménager dans un nouvel endroit.
Mais ça dit aussi, ça parle aussi d'un Budapest dont on ne parle pas forcément assez, nous, depuis notre perchoir à nous, celui qui est jeune, celui qui sort, celui qui est très à la mode, en fait.
Ah, c'est vrai que maintenant, malheureusement, l'image qu'on a de la Hongrie, c'est d'un pays fermé, d'un pays plutôt conservateur, mais il ne faut pas oublier que Budapest, dans ce pays-là, est un îlot. Culturel notamment, avec une jeunesse qui est complètement au diapason finalement des jeunesses européennes, qui bouge beaucoup en Europe, qui est ouverte sur le monde. Et cet endroit est assez représentatif finalement de cet état d'esprit.
On dit qu'on est dans la nouvelle Barcelone ici. Vous qui avez 32 ans, vous diriez que c'est un peu ça ?
Oui, on a longtemps comparé Budapest à Berlin pour la contre-culture, mais malheureusement c'est vrai que depuis quelques années, avec les vols low cost, avec le développement du tourisme très bas prix, c'est devenu une des villes de la fête, une des capitales de la fête de l'Europe, et de ce point de vue-là, on peut tout à fait faire la comparaison avec Barcelone.
Et puis on y va, hein, et c'est ça aussi, parce qu'on le dira tout au long de ces 2 heures, c'est le premier ou le deuxième, je crois, programme Erasmus pour les Français. Ouais. Ça veut dire que c'est une ville qui attire aussi les jeunes Européens. On a envie de venir faire la fête et étudier à Budapest, donc on n'imagine pas d'emblée qu'on va dans un endroit extrêmement fermé, avec une espèce de chape de plomb qui s'appellerait Viktor Orban, en fait.
Tout à fait, d'ailleurs, la plupart des voyageurs qui font le trajet, qui arrivent dans la ville, s'étonnent toujours du décalage qu'on peut avoir entre justement cette image assez rigide et puis d'un autre côté une ville qui malgré tout arrive à vivre. Maintenant on a quand même vu des évolutions dans le milieu culturel budapestois depuis quelques années, où on sent quand même de plus en plus, notamment quand on habite ici à l'année, une certaine pesanteur, une certaine fermeture au niveau de la diversité culturelle notamment.
Et ça, on va y venir. Est-ce que vous diriez que le gap, le trou qui peut exister entre une Hongrie et l'autre, c'est aussi un fossé générationnel ou pas ?
Alors ça a tendance à l'être de plus en plus, parce que Budapest aspire énormément la province. Il y a énormément de jeunes qui, dès qu'ils ont l'âge de faire leurs études, montent dans un premier temps dans les villes secondaires et puis ensuite à Budapest. Donc effectivement, même si à l'origine il n'y avait pas forcément ce fossé-là, les dynamiques démographiques ont tendance à l'accentuer.
La raison pour laquelle je vous pose la question, Ludovic, c'est aussi que quand on discutait ensemble hier en buvant une bière ici même, quand on s'est rencontrés, vous nous avez dit que la différence entre la Hongrie et Budapest, c'était un peu la différence entre New York et le Texas aux États-Unis. Pour autant, est-ce que je me trompe, mais le maire de Budapest est affilié au Fidesz? Donc le parti de Viktor Orban.
Exactement. Alors justement, c'est un enjeu fort. Faut savoir que Budapest dépasse très largement, en termes de limites administratives, les quartiers centraux, qui sont beaucoup plus progressistes. C'est vrai que c'est un maire qui aussi a sa propre popularité. Et donc l'enjeu des prochaines élections municipales, qui sont quand même à l'automne, c'est précisément pour l'opposition de récupérer ce qui a très longtemps été un bastion libéral.
Mais ça veut dire aussi que même pour une ville comme Budapest, à un moment, le Fidesz a été attractif, en fait.
Oui, il faut quand même se rappeler qu'en 2010, quand Viktor Orban arrive de nouveau au pouvoir après 8 ans loin du gouvernement, il faut bien voir que tout le pays a été submergé par cette vague orange des couleurs du Fidesz.
Et est-ce qu'on peut dire aussi que, alors est-ce qu'on dit grâce à lui ou pas, vous allez nous répondre, que économiquement, ça se passe pas si mal pour la Hongrie. En tout cas, il y a une forme de stabilité économique. Est-ce qu'on le dit comme ça?
Alors oui.
Il y a toujours une croissance forte et un chômage très bas.
Ça c'est vrai. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est à la fois ce qu'il y a derrière la croissance. Et beaucoup d'économistes hétérodoxes qui pointent notamment le poids des fonds de rééquilibrage européens, qui sont quand même très très importants.
C'est ça. De l'œuf et de la poule. Est-ce que la stabilité économique, ce sont les fonds européens au
principalement fond c'est on a quand même des niveaux de croissance économique qu'on peut observer dans le reste de la région. Et par ailleurs, quand on voit aussi la faiblesse du chômage en Hongrie, ce qu'il faut voir aussi, c'est les coûts sociaux qui vont avec, c'est-à-dire une pauvreté certes marginalisée, mais quand même extrême, une précarisation des travailleurs, et puis toute une partie de la population qui est corvéable à merci, qui fait du travail d'intérêt général, ce qu'on appelle les kuzmunkas en hongrois. Donc ça a aussi des coûts sociaux significatifs.
On essaiera d'y revenir aussi. Une dernière chose, parce que je veux qu'on fasse effectivement une photo de ce que l'Europe apporte à la Hongrie et inversement. Est-ce que vous diriez cependant, et je pense qu'on le dira d'ailleurs tout au long de ces deux heures, que la Hongrie est un pays farouchement europhile?
Oui, en tout cas la
population. Y compris parmi les partisans de Viktor Orban.
Tout à fait. La population hongroise est europhile de manière constante depuis des années. L'élection de Viktor Orban n'y a rien changé. Les campagnes de Viktor Orban n'y ont rien changé. D'ailleurs, ça doit être l'un de ses premiers regrets. Et puis après, c'est vrai que le Fidesz, en tout cas dans son discours officiel, même si il a un discours très très dur contre la Commission européenne, il ne porte pas un discours eurosceptique comme on peut parfois l'entendre en France.
Effectivement, pas question de sortir. Vous restez évidemment avec nous, Ludovic Coutaché. Bonsoir, Angélique Boin.
Bonsoir, Fabienne.
Vous êtes la correspondante à Bruxelles, normalement pour France Inter, et on vous emmène avec nous dans nos petites pérégrinations. Avec vous, on va prendre des photos de chaque pays traversé, une photo du rapport entre le pays et ce qu'il représente en Europe, en gros, j'allais dire combien de divisions, ce que ça apporte, est-ce que ça rapporte quelques chiffres pour la Hongrie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, déjà, pour préciser que la Hongrie, c'est un pays qui reçoit évidemment beaucoup plus d'argent de l'Union européenne qu'il en verse au budget. Et les principales aides, c'est ce qu'on appelle les fonds structurels. Alors, ça n'englobe pas toutes les aides européennes. Ce sont les principales, celles qui permettent en fait des comparaisons. Et en Hongrie, c'est 360 euros par an et par habitant sur la période 2014 jusqu'en 2020. À titre de comparaison, par exemple, les Espagnols, ils reçoivent 120 euros, les Français 58 euros. Il faut ajouter à ça évidemment la politique agricole commune, avec un autre chiffre qui est intéressant, qu'on peut comparer les aides directes attribuées aux agriculteurs, parce qu'il y a aussi d'autres fonds régionaux, mais c'est 1,3 milliard euros ici en Hongrie. La France, c'est 7 milliards. La France est le premier bénéficiaire de la PAC, on l'a déjà dit, mais c'est bien de le rappeler. Donc par exemple, ces aides, les fonds structurels, 25 milliards d'euros sur 7 ans, il y en a 15 qui vont par exemple uniquement aux régions les plus défavorisées. C'est vrai que ça booste le pays. Il y a 3,5 milliards qui vont au développement ruraux, donc ça sert à tout ça. On entend parfois, d'ailleurs, dans les couloirs de Bruxelles, on a déversé des milliards dans ce pays, et puis qui remercie avec les diatribes anti-européennes de son chef.
On dit ça beaucoup moins poliment de ce que j'ai pu comprendre.
On ne le dit pas toujours très poliment, c'est vrai que ça agace beaucoup. En même temps, l'idée, c'est que cette solidarité, c'est le cœur de l'Europe, elle a pour objet de faire progresser cette Europe, ce marché unique pour tous. Qui a profité de ce développement? On vient de le dire, les Hongrois, bien sûr, mais on rappelle quand même que le niveau de vie, vous l'avez dit, encore très très loin des standards chez nous. Il y a une étude INSEE qui est de 2017 2017 qui dit que le niveau de vie moyen dans ces pays de l'Est de l'Union est encore deux fois moindre qu'en Europe du Nord, en Europe de l'Est. Donc on est très très loin quand même des standards. Et puis il faut rappeler, c'est vrai que c'est un argument des populistes, mais les chiffres sont là, que cette croissance économique, elle a aussi bénéficié aux grandes multinationales. C'est des marchés qui se sont ouverts, qui sont colossaux. Un autre chiffre pour terminer, 80% des importations en Hongrie sont des produits qui proviennent des États membres, dont un quart d'Allemagne. Et ça, c'est quand même le sens de cette construction européenne.
Alors on va quitter provisoirement notre café branché de Budapest pour s'éloigner justement vers cet intérieur de la Hongrie, aller chercher des électeurs pro-Orban, mais pas seulement, justement, c'est à Kestei que nous allons, j'imagine que je le prononce n'importe comment.
C'est très bien.
Ah ben bravo, voilà, le reportage est signé Eric Biegala, on est parti.
Kestei sur le lac Balaton, le plus grand lac d'eau douce d'Europe, 20 000 habitants, auquel on peut ajouter en saison 60 000 touristes. Une petite ville de Hongrie qui vit essentiellement du tourisme. Aux législatives du printemps dernier, Kestei a voté Fidesz, l'union civique hongroise, le parti de Viktor Orban, à hauteur de 50%. Une population à peu près partagée, à égalité donc entre les pros et les anti-Orban. Sur le marché de Kestei, ce matin-là, il n'y a pas grand monde. Mais on y trouve facilement quelques soutiens de la Fidesz, comme Ferenc Novak, par exemple, 67 ans. Il vend champignons et légumes, et son soutien à Viktor Orban tient en un seul et unique argument.
Je vais voter pour le Fidesz, pour les Européens, parce que le problème des migrants est le problème numéro un. Le Fidesz ne veut pas de migrants. On n'a pas de migrants ici, Dieu merci. C'est une chance qu'on n'en ait pas. Et il ne faut pas qu'il y en ait. On a déjà assez de problèmes comme ça. Dans cette question migratoire, le gouvernement Orban conduit une bonne politique. Il ne faut absolument pas de migrants. Leur culture, l'islam, n'a rien à voir avec nous. Et il faut le dire et le répéter.
Tout le monde sur le marché de Kestei ne partage pas l'avis de Ferenc. Marika, par exemple, 76 ans, retraitée, qui reste obligée de faire des marchés pour compléter une retraite très insuffisante.
J'ai voté pour la gauche hongroise.
Il y a longtemps, j'ai voté pour le Fidesz et ils m'ont beaucoup déçue.
En quoi ?
Parce qu'ils volent beaucoup, ils mentent et ils donnent de l'argent uniquement aux riches. Les pauvres deviennent encore plus pauvres. Moi, je comprends absolument pas. Les retraités ici, ils n'arrêtent pas de se plaindre et pourtant, ils continuent à voter pour le Fidesz. Je pense que le Fidesz les a angoissés grâce à cette campagne sur les migrants. Ils n'arrêtent pas. Ils viennent de lancer une nouvelle campagne. On n'entend que ça à la télé, sur toutes les chaînes, la propagande sur les migrants.
Les campagnes anti-migrants se suivent et se succèdent en effet. La dernière en date se décline en affiches partout en ville. Elle prend pour cible l'Union européenne, associant sur la même image le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, et le milliardaire américain George Soros, insinuant que les deux sont associés pour faire venir en Hongrie des migrants par dizaines de milliers. Le plus étonnant, c'est que le mensonge est repris jusque dans des cercles où l'on ne s'attendrait pas à trouver autant de crédulité. Chez Dezső Farkas, par exemple, élu local, vice-président de l'association des entrepreneurs du canton de Kestei.
Ce que l'on peut lire ou entendre, c'est qu'il pourrait devenir obligatoire pour la Hongrie d'accueillir des gens. Or, ce serait un vrai fardeau, beaucoup trop lourd pour notre économie, alors qu'elle est justement en train de se relever. Si on était obligé d'accueillir 45 000 migrants par an, ça mettrait par terre cet élan économique. Et puis, on entend dire dans les médias qu'en France, en Belgique ou à Londres, les attentats ont été commis ou orchestrés par des gens venus du tiers-monde, par des non-européens. C'est ça qui fait peur. Ces migrants qui ont traversé la Hongrie en 2015, ils avaient peut-être des armes.
Tout le monde à Kestei ne souscrit pas à ces théories de la conspiration à relents xénophobes. Djula, par exemple, proche des socialistes, qui raconte par le menu comment le Fidesz et Viktor Orban ont mis la main sur le pays.
À partir de 2010, dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, le Fidesz et Viktor Orban, qui est un type intelligent mais aussi un parfait salaud, ont construit une nouvelle bourgeoisie. Tous les business ont été transférés à leurs proches, les sociétés, y compris les sociétés d'État, sont toutes passées sous la coupe du Fidesz. Leurs nouveaux propriétaires sont des parents ou des proches de la famille Orban, comme Lőrinc Mészáros. Depuis l'an dernier, Mészáros est l'homme le plus riche du pays. Avant, ce n'était qu'un plombier, mais c'est surtout un ami d'enfance d'Orban. La plupart des Hongrois le considèrent d'ailleurs simplement comme son homme de paille.
« À Questel, les quatre hôtels principaux ainsi que la marina sur le lac ont été rachetés une bouchée de pain par des proches d'Orban, par son gendre, ainsi que par l'inévitable Laurens Messaroche. Des équipements qui attendent de sérieux subsides européens pour être rénovés et remis en fonction. Un autre opposant au Fidesz accepte, lui, de parler à visage découvert. C'est Janos Herold du Jobbik, le parti d'extrême droite. Un parti qui s'est, d'une certaine manière, laissé dépasser sur sa droite par le Fidesz de Viktor Orban.
C'est vrai que le Fidesz a repris certains de nos thèmes de campagne, mais il n'y a jamais eu dans notre programme de choses comme se battre contre Bruxelles ou une critique tous azimuts de l'Europe, par exemple. Orban est en train de construire un système qui va dans la direction du régime poutinien. Il critique l'Europe tout en recevant beaucoup d'argent de cette Europe. C'est complètement absurde.
Dépassé sur sa droite par le Fidesz, le Jobbik a d'ailleurs clairement recentré son discours lors de la dernière campagne électorale. Et pour le prochain scrutin des élections locales, ce sera à l'automne, le Jobbik promet des alliances systématiques avec tous les autres partis d'opposition, depuis l'extrême gauche jusqu'à l'ancienne extrême droite, pour espérer enfin battre le Fidesz de Viktor Orban.
C'est Éric Biegala qui signe ce reportage pour Un Jour dans le Monde. Ludovic Pelletier-Coutaché, il y a deux choses qu'on retient. D'abord, cette obsession migratoire, effectivement, c'est un peu l'image vraiment qu'on a de Viktor Orban. Il n'y a pas de migrants ici, Dieu merci. On entend aussi toutes les contre-vérités qui peuvent être dites, auxquelles les gens croient. Mais ce que j'entends aussi derrière, c'est finalement quelque chose de presque immuable. Quand on parle de populisme aujourd'hui, j'entends qu'on s'adresse à une Hongrie chrétienne, rurale, à des oubliés de la mondialisation. On a l'impression finalement d'un discours qui ressemble à ceux de tous les voisins en fait.
Oui, oui, et puis c'est un discours qu'on a l'impression d'entendre plus généralement dans beaucoup de pays,
c'est
beaucoup
ça
de régions du monde.
Il faut
quand même recontextualiser, c'est que avant la crise migratoire de 2015, c'est vrai que c'était un non-sujet, hein, la question migratoire, même la question de la place de l'islam.
Ça a donc même pas été un argument de campagne.
Non, c'était à l'époque on faisait plutôt campagne sur la gestion économique de la gauche, sur les Roms, c'était plutôt de ces sujets-là. C'est un sujet qui est venu de manière assez opportuniste par Viktor Orban en 2015 et qui maintenant est exploité ad nauseam systématiquement, c'est-à-dire qu'il y a des campagnes d'affichage qui rythment maintenant le débat public hongrois. Oui.
Mais ça parle d'histoire aussi quand même, Ludovic, peut-être, non ? Ça parle d'un pays, la Hongrie, qui finalement a toujours été grignoté d'un côté et puis de l'autre. Au fond, chaque personne qui rentre est d'une certaine façon un envahisseur. Enfin, il y a tout un contexte historique peut-être aussi qui permet de comprendre cette obsession qui a une autre forme que celle peut-être de certains voisins.
Oui, mais par exemple, avant la crise migratoire, Orban était prêt à faire construire à Budapest la plus grande mosquée d'Europe centrale. Avec l'aide de la Turquie. Je veux dire, la question, par exemple, de l'islam, elle n'était pas du tout posée dans ces termes-là. Maintenant, quand des pays sont en crise, traversent des crises existentielles profondes, et ça, on voit partout en Europe, d'une certaine façon, la façon dont chaque pays répond, ils puisent dans leur propre trauma historique. Donc, d'une certaine façon, la Hongrie, effectivement, elle mobilise tout l'imaginaire sur l'occupation ottomane, sur le fait que c'était un pays qui était très souvent envahi. Bon, c'est pas forcément ça qui explique l'hystérie actuelle.
On a entendu que pour contrer le Fidesz d'Orban, c'était un peu tous contre Orban, en fait, avec une opposition qui essaye de se rassembler intégralement contre lui. Donc ça peut faire aussi des alliances qui sont très hétéroclites. Alors on a déjà vu ça, hein, mais est-ce que ça a une chance réellement de fonctionner ? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose en ce moment politiquement et qui peut-être donc sera l'un des enjeux de cette élection européenne, tous contre Orban ?
Alors pour les européennes, je pense pas qu'il y aura d'alliance parce que c'est le mode de scrutin ne le nécessite pas. Après, pour les municipales, c'est autre chose. Mais effectivement, on a tout l'arc politique du Jobbik à la gauche qui est en train de se mobiliser et avec une nouveauté. D'ailleurs, c'est quand même assez étonnant en 8 ans de mandat que ça ne soit pas arrivé plus tôt, mais des dirigeants politiques d'opposition qui se parlent entre eux. Mmh. Et ça, c'est grâce aux mobilisations sociales de décembre et de janvier où on a vu comme ça des dirigeants dans des dîners en ville se parler, rigoler rire entre eux, etc., ce qui n'était jamais arrivé avant.
On a vu, effectivement, nous, puisqu'on a couvert ces moments-là, ces manifestations sociales, cette loi travail, en fait, qui a été refusée par les Hongrois, et en même temps, on n'en entend plus parler aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a eu une espèce de pic social, mais qu'aujourd'hui, tout cela est retombé. Est-ce que l'opposition a capitalisé dessus? Est-ce qu'il a senti le vent du boulet, Viktor Orban, ou pas du tout?
Je pense qu'il a vraiment senti le vent du boulet, parce que ce qui s'est passé, c'est sans commune mesure avec les mobilisations précédentes, même si quantitativement c'était beaucoup moins spectaculaire que par exemple contre la taxe internet, ce genre de choses où il y avait vraiment les rues de Budapest étaient envahies de monde. Mais là, ce qui se passe, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, c'est-à-dire qu'on avait des villes en province qui se sont mobilisées, on n'avait jamais vu de manifestation depuis des décennies. On a aussi les syndicats qui sont en train d'avoir un regain d'adhésion. Il y a des sites industriels où des sections syndicales se forment, etc. Et c'est vrai que même si c'est pas spectaculaire, même si on n'en a pas forcément une grande visibilité, on sent quand même qu'il y a quelque chose de profond qui est en train de se passer.
Mais est-ce que ça veut dire qu'à minima, les élections européennes ici serviront à ça, à se compter, en fait, et y compris pour le Fidesz, en fait?
Tout à fait. C'est vraiment la grande inconnue, c'est-à-dire que le Fidesz, il faut le rappeler, ne dépasse pas les 50% des intentions de vote, ça n'a jamais été le cas. Et les élections européennes sont un scrutin proportionnel, donc la vraie question, ça va être de bien mesurer le rapport de force réaliste, réel, à ce moment-là.
Allez, on y reviendra, on n'a pas fini ce tour de la Hongrie, vous reviendrez aussi, Ludovic Peltier-Koutassi, au cours de ce 18-20. On va faire une petite pause musicale, je vais vous laisser prononcer le nom du groupe et la chanson qu'on va entendre.
Alors, le nom du groupe, c'est Kispál és a Borz, et le nom de la chanson, c'est Rázi Látban.
Et très populaire ici
Oui, c'est vraiment un groupe très... comment dire, éminent de la scène alternative budapestoise et hongroise.
Un bon choix, comme d'habitude.
Très bon choix.
Programmateur de France Inter, à tout de suite. Allez, retour à Budapest, au café alternatif Golia, toujours.
France Inter,
ça,
en direct
entendre.
De Budapest, un jour dans le monde, édition spéciale, élection européenne.
Voilà, toujours dans donc ce café qui nous accueille. Je vais tout vous raconter, on est dans la salle normalement réservée aux enfants, donc c'est assez baroque pour tout vous dire, parce qu'il y a des peluches un peu partout ici et là, et beaucoup de gens qui sont venus et qui nous écoutent. Il y a un peu plus loin un groupe qui est en train de s'installer, peut-être qu'on entendra la balance d'ailleurs, pourquoi pas tout à l'heure, ce qui nous permet de poursuivre cette discussion avec le prochain invité autour de cette table. Bonsoir Gabor Glanitsaï, est-ce que je l'ai bien descendu, si je puis dire?
Ouais.
Formidable. Vous êtes professeur d'études médiévales à l'Université d'Europe centrale. Donc la fameuse université Georges Soros qui va déménager à Vienne. On va écouter l'un de vos collègues universitaires qui ne travaille pas avec vous, mais dans un instant. Et cette université Georges Soros, donc, qui va devoir déménager, j'aimerais d'abord savoir comment on vit ça quand on y est enseignant. Est-ce que quoi, c'est la bulle étrangère à l'intérieur de la ville à qui on a demandé de partir? Est-ce que c'est comme ça que vous le vivez? Comment on peut dire ça?
Alors, on le vit avec angoisse et très mal. Alors, on était très triste qu'on est sous cette pression. Mais déménager, il faut dire que une université ne peut pas déménager. C'est pas comme ça que les choses passent. Alors, en fait, on travaille ici, on a des étudiants, on a des professeurs, on a nos activités. Seulement, maintenant, il y a une législation. Cette fameuse Lex CU qui nous a rendu impossible d'admettre des nouveaux étudiants pour des diplômes américains.
Parce qu'il faut rappeler que vous êtes une université entièrement anglophone. Il y a à peu près 1400 étudiants, est-ce que je me trompe?
Oui,
c'est
voilà.
À peu près dans ce... Est-ce que vous avez l'impression que vous faites les frais de cette inimitié, et encore je suis très poli en employant ce mot-là, entre Viktor Orban et Georges Soros, ou est-ce que réellement vous avez le sentiment que vous étiez une sorte de symbole de résistance, en fait, de bulle de résistance ou pas?
Alors les deux. En fait, c'est une université internationale qui est née après 89 dans la transition avec une idée d'Europe, une idée du monde, mondialisation, une idée d'apporter ici vraiment l'expertise mondiale et aussi servir comme un pont entre l'Europe centrale et aussi tout le monde et les milieux académiques américains.
Vous et d'autres aussi, on va y revenir. Je voudrais qu'on écoute l'un de vos collègues universitaires. Il est directeur du centre social de l'Académie des sciences. Il s'appelle Jolt Boda. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, il y a l'université Georges Soros. Il y a aussi un budget à l'Académie des sciences qui a été amputé de 40%.
Exactement.
Il y a aussi des projets de recherche qui désormais doivent répondre à un certain nombre de principes dits d'innovation, ce qui permet de bloquer certains projets. On l'écoute, on se retrouve juste après. Voilà, il s'appelle théoriquement Jolt Boda. Est-ce qu'on a Monsieur Boda? Est-ce qu'on peut l'entendre? Donc, directeur du centre social.
Une question de contrôle et aussi une question idéologique. Il n'aime pas les sciences sociales, il n'aime pas les sciences sociales critiques. Il n'aime pas notamment les études de genre, mais aussi la sociologie qui est quand même toujours un peu critique, ou même les sciences économiques qui font des analyses parfois un peu différentes que ce qu'on retrouve dans la communication du gouvernement. Et tout ça, c'est perçu par eux
comme une sorte
de menace, quelque chose qu'il faut contrôler, qu'il faut repousser, qu'il faut arrêter. Il y a une tendance illibérale. C'est le Premier ministre qui a déclaré ça il y a 5 ans, que la démocratie en Hongrie, ce n'est pas nécessairement une démocratie libérale. Et depuis, il a dit qu'ils sont pour une démocratie chrétienne. Alors, je ne sais pas exactement, en tant que politologue, je dois vous avouer, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, une démocratie chrétienne. Il y a des partis qui s'appellent chrétiens-démocrates, c'est vrai. Mais en tant que système de démocratie chrétienne, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Je pense que ça va contre la séparation de l'État et de l'Église. Pour moi, c'est une indication claire qu'en effet, il y a une tendance de contrôler la liberté de penser, la liberté académique, la liberté des universités. C'est ce que le gouvernement appelle, ou les intellos autour du gouvernement appellent, la guerre de culture.
Gabor Glanitsaï, est-ce que vous diriez qu'il y a une sorte de reprise en main idéologique? Est-ce qu'on dit des mots aussi forts que cela?
Absolument, absolument. Et en fait, quand toutes ces actions contre CU ont commencé, d'abord, ça faisait partie d'une campagne contre toutes les organisations de Georges Soros, mais ces organisations étaient sous l'emblème Open Society. C'était l'idée de Karl Popper, c'était l'idée d'une démocratie ouverte de la société civile, et c'est justement contre cela que Orban a commencé sa campagne.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, si on n'appartient pas au Fidesz ou si on ne montre pas ses accointances avec le Fidesz, on a du mal aujourd'hui à faire une carrière universitaire? Est-ce que c'est ça que ça veut dire?
Non, ceci ne peut pas se dire. Mm-hmm. Les universités ne sont pas prises en main par le parti, pas encore. Il y a une tentative de les dominer du point de vue financier et administratif. Il y a des restrictions. C'est pas tellement une... ils ont naturellement une université aussi des un peu pour les services civils qu'ils favorisent, qui est tout à fait dominé. Mais les universités de Budapest et l'Université d'Europe centrale, évidemment, alors là, ils n'ont pas d'influence à l'intérieur. Mmh. C'est pour ça qu'ils cherchent de les limiter, de les expulser ou de les rendre vraiment incapables de faire vraiment une grande influence.
Gábor Klanitsaï, je ne veux pas être désagréable avec vous, votre carrière est un peu derrière vous, vous n'êtes pas un jeune professeur, je voudrais savoir si vous étiez un jeune prof de 30 ans aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous restez, est-ce que vous continuez à enseigner justement dans cette Hongrie-là parce que c'est important, ou est-ce que vous allez chercher refuge dans une université à l'extérieur?
Alors ça dépend des choix individuels. Il y a des gens qui malheureusement, beaucoup des meilleurs qui partent. Non seulement dans les sciences humaines où peut-être la situation est la plus difficile, mais les sciences naturelles où il y a des possibilités vraiment immenses. Il y a certaines qui restent naturellement, il y a la famille, il y a aussi une volonté que c'est pas nous qui devrons partir, mais ça devrait ceux qui cherchent à imposer cette autocratie, c'est notre pays. Alors il y a aussi des gens qui restent. Mais malheureusement, beaucoup qui partent.
Merci beaucoup, Gábor Klanitsaï, pour ce reportage. Et bonsoir à vous, Florence Labruyère.
Bonsoir, Fabienne.
Vous êtes la correspondante d'RFI et de Libération ici à Budapest. Vous y êtes depuis très longtemps. J'ai d'abord une curiosité, parce que ça fait écho à ce que disait notre ami Gábor à l'instant. Est-ce que vous vous souvenez, vous, parce que vous y étiez déjà, du moment où la Hongrie entre dans l'Europe, de cette espèce de moment? Est-ce que ça a été un vrai moment euphorique? Est-ce qu'il en reste aujourd'hui, en fait, de tout ça?
Je dirais c'était pas vraiment un moment euphorique. La vraie euphorie dont je me souviens, c'est 1989. Mmh. C'est l'année où je suis venue pour la première fois en Hongrie. J'ai débarqué dans une ville qui, je trouvais, ressemblait beaucoup à Barcelone, mmh, architecturalement passant. Et là, il y avait une énorme euphorie. 2004, non. D'ailleurs, ça agaçait beaucoup les Hongrois quand on leur dit « Alors, vous êtes contents de rentrer dans l'Europe ?» Ils répondaient avec un petit soupir. Mais l'Europe, on y est déjà. On a toujours été européens. Et c'est vrai, comme disait Ludovic tout à l'heure, les élites, toutes les élites hongroises étaient et restent européennes. Alors, il y avait quand même une grande différence entre Budapest, effectivement, et province, où beaucoup d'usines avaient fermé. Et là, il y avait beaucoup d'attentes de cette adhésion à l'Europe.
Et est-ce que vous avez, vous aussi, constaté une sorte de basculement qui s'est fait, effectivement, en 2015, au moment de la crise migratoire? Ou est-ce qu'on peut dire, peut-être en caricaturant un peu, qu'il y a eu un Orban d'avant et un Orban d'après, en fait, avec une espèce d'idées opportunistes autour de la crise de 2015?
Tout à fait. D'ailleurs, il y a plusieurs Orban. Je dois me pincer encore pour quand je me souviens du Viktor Orban avec lequel je faisais les campagnes électorales en 1990. C'était pas du tout le même homme. Il a été pour la première fois au gouvernement entre 1998 et 2002. C'était pas non plus le même homme. C'est un caméléon qui a changé à plusieurs reprises dans sa vie.
Mais c'est un changement idéologique, Florence, ou opportuniste, en fait, par un moment pour arriver à accéder au pouvoir depuis 2010 ou...
Un peu les deux. Je crois que c'est à la fois un pragmatique qui devient populiste par opportunisme, parce qu'il sent que le vent tourne, mais c'est aussi quelqu'un qui a des obsessions idéologiques et qui s'est construit politiquement de manière très binaire. Il s'est construit contre l'ennemi. Mmh. Il y a une espèce de polarisation qui s'est faite dans sa tête, et aujourd'hui...
Et donc il y a l'idée qu'en face, il y a donc un ennemi, en fait. Mais qui est l'ennemi, en fait?
Ça a été les SDF, il a tourné dans le pays pendant une année entière en faisant des réunions contre les SDF. Ça a été, à un moment donné, Bruxelles, c'est revenu contre... Et puis, en 2015, c'est juste après l'attentat contre Charlie Hebdo, quelques jours après, il a lancé sa campagne. Il a tout de suite compris que le vent était en train de tourner. C'est quelqu'un qui a quand même un flair politique.
J'allais dire, il y a aussi une... Alors, quoi qu'on en pense, il y a une forme de finesse politique là derrière aussi. Encore une fois, quoi qu'on en pense.
Oui, il a aussi été conseillé par un Américain qui a conseillé Nixon et Netanyahou, Arthur Finkelstein, et qui était un spécialiste des campagnes négatives. Ça a beaucoup joué aussi.
Il y a quelque chose dont on n'a pas du tout parlé. Je voudrais qu'on termine cette heure avec ça, parce que ça fait aussi partie des composantes de la Hongrie. Ce sont les Roms. Et la raison pour laquelle vous vouliez nous en parler aussi, Florence, c'est que d'abord, il y a une école où vous êtes allée. On va écouter votre reportage. Et puis, qu'est-ce qu'ils sont dans cette... Qu'est-ce qu'ils sont? Est-ce que c'est les laissés pour compte, en fait, dans cette Hongrie de Viktor Orban, ces gens? Est-ce que c'est les exclus du partage en quelque sorte, pas ?
Tout à fait, et il faut imaginer qu'il y a une énorme différence entre la province et Budapest, beaucoup plus qu'entre, je dirais, la Creuse et Paris par exemple. Il y a des régions où il n'y a pas de transport, où c'est presque impossible d'aller prendre le train à la gare parce que les villages sont archi mal desservis. C'est un peu le tiers-monde ou le quart-monde.
On va écouter votre reportage. Vous êtes allé à 170 km au nord de Budapest, est-ce que je me trompe ? Après Budapest, en tout cas, seul établissement qui accueille la population rome. On écoute et on se retrouve après.
Aujourd'hui, cours de grammaire et de littérature au lycée Ambedkar. Les élèves lisent La ferme des animaux de l'écrivain George Orwell. La littérature, Kimberly adore ça. Cette adolescente rieuse est également bonne en maths. Comme tous les élèves du lycée, Kimberly appartient à la communauté rome. Plus tard, elle veut être économiste.
J'aurais sûrement été admise dans un autre lycée, mais ici, on est soutenu financièrement. Et les profs nous amènent dans plein d'endroits, ils nous font découvrir plein de choses, ils nous stimulent.
Dans le lycée, il y a un internat où logent les élèves qui habitent très loin. C'est le cas d'Adrian Horvat.
Dans ma famille, personne n'a le bac. Si je réussis, mes parents seront fiers de moi.
Dalida Konya a 16 ans. Avec sa famille, elle a passé plusieurs années à l'étranger. Elle parle mieux l'anglais que le hongrois. Toutes les écoles de la ville ont refusé de l'accueillir, sauf le lycée Ambedkar.
Ici, ce n'est pas juste une école, c'est comme une famille. Les profs sont gentils, ils nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes et ça me plaît beaucoup. Bon, là, je fais un cours de français, en musique.
Je m'appelle Nicolas Beaupertuis, et je suis professeur de musique à l'école Ambedkar. Un lycée qui aide les jeunes adolescents roms, tziganes à se réintégrer dans un cursus scolaire, mais pas que. Pour moi, c'est aussi en fait se réintégrer dans la société finalement, rencontrer des gens. J'étais prof avant en collège, alors pas en France, mais en Suisse. Et en fait, je retrouve exactement les mêmes adolescents. C'est-à-dire que des fois, ils ont envie de faire, et des fois moins. Mais globalement, ils sont généreux, ils ont vraiment envie de participer. Mais c'est les mêmes adolescents.
La plupart de nos élèves qui ont passé le bac sont chefs d'équipe dans des usines. Ils ont un meilleur salaire que les autres. On veut qu'il y ait de plus en plus de tziganes qui paient les impôts. C'est ça notre objectif.
János Orsós préside la fondation qui gère le lycée. Il s'inquiète car le gouvernement hongrois a abaissé l'âge de la scolarité à 16 ans. Le gouvernement a aussi lancé un programme de travaux publics. Dans les villages, les jeunes Roms gagnent 200 euros par mois pour balayer les rues. Un salaire attractif qui pousse ces jeunes à quitter l'école. Résultat, le lycée Ambedkar n'a plus assez d'élèves. Il pourrait être obligé de fermer ses portes.
Au revoir, on a bien entendu. Merci beaucoup pour ce reportage. Florence Labruyère, bonsoir. Tibor Derdak. Vous pouvez vous approcher du micro pour me dire bonsoir.
Bonsoir,
voilà, vous
bonsoir.
Y êtes. On est chez vous, en fait, parce que ce lycée, c'est le vôtre. La question que ça pose, c'est aussi la place des minorités dans ce pays aujourd'hui est telle qu'il est. C'est quoi la place de cette minorité-là aujourd'hui ?
Mais il y a des tziganes partout en Europe, en France aussi.
Certes.
Mais il y a beaucoup plus en Hongrie, en Bulgarie, en Slovaquie, en Roumanie. Et ici, ce groupe social joue le rôle des immigrés dans certains aspects. La misère, les difficultés de l'insertion sont très similaires à ce qu'on voit avec les immigrés en Europe de l'Ouest.
Est-ce que vous avez le sentiment que cette loi donc, qui consiste à quitter l'école en gros à 16 ans, enfin l'autorisation de quitter l'école à 16 ans, on va le dire comme ça, est aussi d'une certaine façon dirigée contre cette minorité-là pour faire en sorte que de toute façon elle n'atteigne jamais un certain niveau ?
Oui, c'est difficile de dire... que le gouvernement veut détourner une grande masse de peuples, des universités, des lycées. Mais si on va dans n'importe quel lycée en Hongrie, on ne rencontre pas de tziganes, ni dans les universités, bien sûr. Et le point de détour, c'est juste à l'âge de 14 ans, 16 ans, quand il y a des bourses offertes à ces jeunes s'ils vont dans l'éducation professionnelle, et il n'y a pas de bourse s'ils vont dans les lycées, dans les universités.
Florence Labrouillard, je vais revenir à vous, Tibor, dans un instant. Est-ce que, on parlait de cette espèce de volonté délibérée, est-ce que c'est, là pour le coup, le gouvernement Viktor Orban ou, pardon de le dire comme ça, c'est un peu de tout temps aussi dans un pays comme la Hongrie, où il s'est passé quelque chose de particulier autour de cette minorité-là ces dernières années?
Je crois qu'aucun gouvernement n'a jamais réussi vraiment à améliorer la situation des tziganes, mais cet abaissement de l'âge de la scolarité a un effet désastreux, et on peut déjà le mesurer. L'Office des statistiques hongrois a récemment publié sur son site des chiffres qui montrent la réalité. En 3 ans, 70% des jeunes de 17 ans, des jeunes défavorisés, ont quitté l'école. Depuis 3 ans. Donc voilà, on voit les résultats de cette politique qui a clairement été mise en place pour déscolariser la plupart des jeunes et les mettre et les forcer à faire des travaux d'intérêt public, les mettre sur une voie de garage en fait.
Tibor Derdak, je voudrais vous ramener un peu plus loin en arrière si vous le voulez bien. Vous êtes-vous de cette génération, j'allais dire post-communiste, vous avez été dans une vie antérieure, on va dire, un dissident avant la chute. Est-ce que vous avez le sentiment vous aussi d'ailleurs que c'est une vie antérieure en fait? Parce que la raison pour laquelle vous n'êtes plus dans la politique aujourd'hui, vous vous intéressez à tout à fait autre chose, est-ce que c'est, je sais pas, la raison c'est quoi? Est-ce que c'est de vous dire, le basculement tel que je le vois aujourd'hui dans mon pays, c'est pas comme ça que je l'avais imaginé en fait? Est-ce que vous avez ça dans un coin de votre tête?
Oui, en 90, je suis devenu membre de l'Assemblée nationale. J'étais très jeune, même trop jeune pour devenir un député. On était presque 400 dans le Parlement hongrois. C'est un petit pays avec un très grand Parlement. Alors, je pouvais faire peut-être n'importe quoi. Moi, ce que j'ai choisi pour moi-même, c'était le problème tzigane, parce que je vivais déjà dans un village tzigane. Je parlais déjà la langue de mes élèves. Et ça m'intéressait beaucoup. Et c'était évident que dans la politique, dans la représentation des intérêts, les tziganes ne sont pas là.
Est-ce que vous vous sentez, vous, d'une certaine façon, trahi de ce que vous avez espéré au début des années 90 par rapport à l'endroit où est la Hongrie aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous a pas vendu ce que vous vivez là aujourd'hui? C'est pas comme ça que vous l'imaginiez quand vous avez voulu vous lancer en politique au début des années 90?
Oui, c'était une Hongrie très très différente, et c'était des temps révolutionnaires. Il y avait de la presse libre qu'on ne connaît plus en Hongrie. Il y avait un enthousiasme. Il y avait pas de xénophobie qu'on connaît maintenant, des campagnes gouvernementales partout, des affiches, des émissions à la radio. C'est vraiment une ambiance très très différente.
Comment vous vivez, vous, ce serait la dernière question, de cette idée, cette espèce de nostalgie d'un état fort en fait? Quelqu'un, encore une fois, comme vous, qui a vécu cette période-là, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est aujourd'hui dans un terrible retour en arrière par rapport à ce que vous avez vécu, encore une fois, à votre époque?
Oui, c'est les années 30 maintenant en Hongrie. C'est un retour, oui.
Les années 30 même, vous dites. Et c'est pour ça, j'imagine, que vous avez choisi de vous partir dans votre lycée à 170 km au-dessus de Budapest. Merci beaucoup. Merci vraiment à tous de nous avoir fait visiter la Hongrie au cours de cette première heure. On n'a pas fini. On reste ensemble dans un instant. On ira en Pologne, on ira en Roumanie, on ira en Autriche, en Europe, au Parlement. On ira voir quelle est la place de chacun.
Witajcie, moi drodzy, witajcie, przyjaciele, witaj Polsko.
Oder Sie gehen den Weg, dass Sie für diese Fälle...
Dzisiaj inspiruje Europę.
Et de retour à Budapest, de retour au Café Golia qui nous accueille si gentiment pour ce 18-20 spécial. Peut-être, vous allez peut-être l'entendre dans un instant qu'un groupe se met en place ici dans le café où nous sommes. Et doucement, la soirée commence et donc les gens sont en train de s'installer. On était très hongrois dans la première partie de cette édition spéciale et de ce 18-20. On va être polonais, roumain, autrichien aussi. Soyez les bienvenus dans cette deuxième heure.
France Inter, Fabienne Sintès, 18-20 spéciale élection européenne en direct de Budapest.
Et on retrouve notre ami du Courrier d'Europe centrale, Ludovic Pelletier-Koutachy, qui est resté autour de nous. Florence Labrouillère est restée également. Je voudrais qu'on aille en Pologne ensemble d'abord. Et la raison, Ludovic, pour laquelle je voudrais qu'on aille en Pologne, c'est qu'on a un peu tendance à dire, peut-être que c'est notre vision, nous, qui n'est pas une bonne vision depuis notre chapelle à nous, c'est que Pologne-Hongrie, bonnet blanc, blanc bonnet, Fidesz-PiS, au fond, les deux partis majoritaires, deux partis nationalistes, même chose. On se trompe lourdement ou on a un peu raison quand même?
Alors on a un petit peu raison hein, quand même. Quand le PiS est arrivé au pouvoir, c'était très largement salué à Budapest, alors que l'adversaire malheureux du PiS, c'était quand même la plateforme civique, qui est quand même le parti frère du Fidesz au sein du PPE. On se trompe pas parce que ce sont deux droites conservatrices qui ont pour point commun une forme de revanchisme, ce qui est très très fort dans les deux pays, notamment.
Revanche par rapport à.
Par rapport à la période communiste qui est encore particulièrement ancrée. En Pologne, ça prend quand même des tournures très importantes en termes d'indemnisation, en termes des débats mémoriels assez importants. Après, là où il y a des différences, c'est que ce sont quand même des pays qui sont très différents malgré tout. La Pologne, c'est un grand pays européen qui a.
Et la Hongrie, donc, est un petit pays européen.
Qui est désormais un petit pays européen, mais et la Pologne, c'est vrai qu'elle a pour souci de se faire respecter en tant que puissance régionale. Elle a comme souci de se faire respecter pour ce qu'elle est, pour sa taille démographique. Alors que la Hongrie, d'une certaine façon, et on le voit bien dans le comportement des dirigeants des deux pays, elle a un côté beaucoup plus tactique. Elle est plutôt dans notamment au niveau diplomatique sur des logiques de pied dans la porte, de multiplier les appartenances à des clubs, d'essayer d'intégrer des groupes pour les changer de l'intérieur, alors que la Pologne au niveau diplomatique, elle est beaucoup plus rigide.
Mais est-ce que vous reconnaissez hongrois et polonais? Est-ce qu'il y a de vraies affinités en fait entre vous?
Alors il y a un vieux dicton qui parle des deux peuples comme des peuples frères. Les mauvaises langues diront que c'est parce que dans la région, c'est sans doute avec la Pologne qu'on s'est le moins querellé, avec lesquels on a eu le moins de conflits. Ce qui n'est pas les Slovaques, les Croates, pour ceux qui nous écoutent, faisaient partie de la Hongrie, la Transylvanie est allée à la Roumanie après la Première Guerre mondiale. Donc c'est vrai qu'il y a une forme de fraternité magyaro-polonaise. Après, c'est des pays de centre européen qui partagent aussi un certain nombre de traits culturels. Donc, je pense que quand un Polonais rencontre un Hongrois, il n'est pas dépaysé.
Florence Labrouillère, est-ce que vous diriez comme Ludovic, qui lui a son prisme hongrois, est-ce que vous trouvez des vraies similitudes en fait entre ces deux pays et ces deux dirigeants en fait qui sont l'un comme l'autre, j'allais dire en guerre contre l'Europe, n'exagérons rien, mais en tout cas parfois en guerre même contre l'Europe, disons-le.
Ouais. Oui, mais je crois qu'il y a quand même d'énormes différences entre les deux pays et entre les deux gouvernements. Et la première grande différence que je vois, c'est qu'en Pologne, il reste une société civile très forte. Énormément d'associations, énormément d'ONG qui sont vraiment très impliquées. Les jeunes sont très impliqués. En Hongrie, malheureusement, la société civile est pratiquement exsangue. Les Hongrois ont déjà du mal à s'impliquer dans un travail de volontariat associatif. Et là, depuis quelques années, les associations sont prises en chaîne. Une vraie chasse aux sorcières des associations. Et il y a un vrai exode des ressources humaines, des compétences humaines qui travaillaient autrefois dans ces ONG. Donc c'est une énorme différence. Et la deuxième grande différence que je vois, c'est qu'en raison de son histoire, la Pologne ne peut pas vraiment être proche du régime de Vladimir Poutine. Puisque, rappelons-le, la Pologne a été dépecée. Elle a été carrément rayée de la carte au profit de l'ours soviétique. En revanche, le gouvernement hongrois de Viktor Orban a un véritable tropisme à l'égard de Moscou. C'est quand même un pays qui se russifie petit à petit au plan économique, au plan politique. Il y a une énorme banque d'investissement russe qui va s'installer dans pas longtemps, là, à Budapest. Tous les membres auront un statut diplomatique. Cette banque était autrefois à Moscou. Enfin, on se demande si c'est pas un nid d'espions qui est en train de s'installer à Budapest. Viktor Orban a signé un contrat classé secret pendant 30 ans avec Moscou pour l'agrandissement d'une centrale nucléaire hongroise. Il a également vendu des permis de résidence à 20 000 personnes qui ont payé très cher, et parmi eux, il y a beaucoup de Russes.
Ludovic Kutashi, est-ce qu'il y a aussi un sentiment de différence de traitement? J'y pense parce que quand la Pologne va trop loin, l'Europe agite le fameux article 7, oui. Celui qui pointe le manquement à l'état de droit, c'est quelque chose de très grave. Quand la Hongrie dérape, on n'agite pas l'article 7. Donc est-ce qu'il y a ce sentiment de deux poids, deux mesures?
Alors on agite aussi l'article 7 concernant la Hongrie, mais c'est vrai que la différence c'est que la décision ne s'est pas prise dans les mêmes instances au niveau européen.
La Commission, le Parlement, oui.
Comme commission concernant la Pologne et Parlement concernant la Hongrie. C'est vrai que pour continuer un petit peu le développement, c'est vrai que Viktor Orban, il a une c'est un homme politique rusé, hein, qui a une vraie intelligence politique au niveau européen, qui a cette capacité à nouer des alliances, et parmi les clubs dont il fait partie, effectivement, il y a ce club russe, il y a aussi il entretient d'excellentes relations avec la Chine, il entretient d'excellentes relations avec les Balkans, etc., mais aussi avec la CDU allemande, et il fait partie jusqu'à ce qu'il soit, n'en soit peut-être un jour exclu, du Parti populaire européen, qui est le parti de Juncker, qui est le parti d'Angela Merkel.
On va y revenir effectivement aux appartenances aussi des groupes de chacun. Angélique Boin, puisque dans chaque pays que nous traversions, vous nous faites une sorte de photo européenne. La Pologne, Angélique, d'abord il y a une chose qu'il faut dire, on l'a beaucoup répété mais on le redit, pays très europhile, la Pologne.
Oui, c'est ce que montre d'ailleurs le dernier Eurobaromètre européen qui date de novembre dernier. Plus d'un Polonais sur deux, c'est 54%, une opinion positive de l'Europe. Et c'est la quatrième place dans les 28. Il y a l'Irlande, Bulgarie, Luxembourg. Après, il y a les Polonais. Juste un mot, en France, c'est seulement 20%
des Français. Ouais, c'est beaucoup plus haut que nous. Ouais.
C'est très haut. Et ça s'explique aussi avec cette formidable croissance en Pologne. C'est l'un des pays européens où la croissance a été la plus forte entre 2007 et 2012. C'est le seul État de l'Union qui n'a pas connu de récession. C'est très important après la crise financière de 2008, et c'est quand même en grande partie en raison de ces aides européennes. C'est le premier bénéficiaire dans l'Union des fonds structurels, c'est 86 milliards d'euros sur 7 ans. Alors rapporté au nombre d'habitants, parce que c'est un très grand pays, c'est un petit peu moins que les Hongrois, on était à 360, on est à 320 euros par habitant et par an, je rappelle 120 l'Espagne, 58 la France. Il faut rajouter les aides de la PAC, c'est un grand pays agricole, c'est le cinquième bénéficiaire avec 3 milliards et demi d'euros d'aides directes par an, en tout cas des derniers chiffres de 2018. Donc c'est important. Et je lisais dans une note ministérielle polonaise que l'écart entre le niveau moyen de PIB par habitant de la Pologne et celui des 27 s'est réduit de 14% en 5 ans. C'est colossal. C'est le rattrapage le plus spectaculaire de ces pays de l'Est, même si évidemment il y a encore beaucoup à faire.
Et alors cet argent, pardon, il sert à quoi en fait?
Alors par exemple, bon, alors, les infrastructures, toujours beaucoup. Ces fonds européens sont très importants. Et en plus, fixent et ciblent des régions qui, au sein de ces grands pays, n'ont pas le même niveau d'infrastructure. Donc ça, c'est important. Il y a eu aussi un soutien massif aux entreprises qui en avaient besoin pour conquérir de nouveaux marchés. Il y a eu des investissements qui ont été faits dans des secteurs clés de l'économie comme l'automobile, la construction navale, l'agroalimentaire. Et puis les Polonais, ils ont su mobiliser des pans entiers de leur économie pour justement récupérer cet argent et puis pleinement l'investir pour progresser économiquement. On a modernisé la PAC. Si vous allez sur le site de la Commission, c'est intéressant, c'est très utile pour comprendre à quoi sert cette Europe tous les jours. Il y a des vidéos. On voit par exemple qu'en ce moment, il y a un projet de distribution d'eau à Varsovie, un autre pour aider l'emploi des femmes. Enfin, c'est très concret et les Polonais en ont bien profité.
Effectivement, des choses très concrètes. Je voudrais qu'on y aille dans le cœur de la Pologne, justement, voir un peu comment on la sent, cette Europe. On le fait grâce à Marie-Pierre Véraud. On écoute son reportage et on se retrouve juste après.
Jarosław Kaczyński, ogromne brawa!
Drapeau polonais à l'honneur et un slogan, la Pologne est le cœur de l'Europe. Réunis en convention à Varsovie à 3 mois des européennes, le PiS, le parti droit et justice de Jarosław Kaczyński, lance une campagne qui va servir de galop d'essai avant les législatives de l'automne et les annonces se bousculent. Près de 10 milliards d'euros de dépenses sociales nouvelles, notamment l'allocation mensuelle de 500 zloty, un peu plus de 100 euros, sera versée désormais dès le premier enfant. Des promesses qui résonnent à un peu plus d'une centaine de kilomètres au sud, dans la petite ville de Chydłowiec, dans cette campagne polonaise pas très riche, qui, même si elle vote pour l'opposition aux élections locales, se lève comme un seul homme pour le PiS lors des scrutins nationaux. Darek et Justynia Jakubczek nous accueillent dans leur confortable maison, non loin de la forêt. Le père et son gendre sont associés dans une petite entreprise de bâtiment. Les enfants et petits-enfants prennent place autour de la table. La famille est au centre des valeurs et ce fameux programme dit 500+ a toute leur faveur.
Grâce à cet argent supplémentaire, nous avons pu partir en vacances. Nous avons amené nos enfants à la campagne, à la montagne, à la mer. Sinon, il n'aura pas pu découvrir tout cela. Ma sœur, qui a des enfants plus grands, s'en sert, elle, pour leur payer des cours de karaté, de peinture et de théâtre.
Et Marcin, son époux, d'ajouter qu'en plus, la politique du PiS est bonne pour sa petite entreprise, avec moins de cotisations et plus d'argent pour se développer.
Moi, maintenant, je suis un petit peu plus âgé, mais je vois pour mes enfants, pour ma fille, pour mon gendre, que cette politique conduite depuis 3 ans offre des perspectives à la jeunesse. Ils ne sont plus obligés d'avoir pour perspective de quitter la Pologne, d'aller gagner leur vie à l'étranger, etc. Cette politique d'aide à la famille et cette politique d'aide à la petite entreprise, tout ça conjugué, fait que les jeunes du style de mes deux enfants considèrent avoir maintenant des perspectives professionnel et familial d'épanouissement réel ici en Pologne, sans être obligé de quitter le pays.
Je me rappelle, moi, quand j'étais petite et que je voyais partir mon père, il partait à l'étranger en Italie pour des périodes de 6, 7, 8 mois et nous, on restait ici avec maman. D'un point de vue familial, ce n'était pas très réjouissant. Et puis, je pense qu'il s'est produit un changement important il y a 3 ans avec l'élection du PiS. Avant, c'était comme si en Pologne, on ne pouvait exister que si on était très riche ou alors très pauvres, avec les aides sociales. Mais pour les gens comme nous, de la classe intermédiaire, il n'y avait rien. Aujourd'hui, on a l'impression que le parti au pouvoir, lui, est attentif aux besoins et aux réalités de la classe moyenne.
Parce que jusque-là, on ne vous écoutait pas, on n'écoutait pas les classes moyennes en Pologne.
Rappelons-nous qu'il y a 4 ans encore, bon, eux, là, les jeunes, peut-être qu'ils ne se rappellent pas, parce qu'à l'époque, ils s'intéressaient moins à la politique, mais il y a 4 ans, toutes les fois que, par exemple, la classe travailleuse, quand elle demandait, par exemple, une augmentation des salaires, etc., on leur disait qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y avait jamais d'argent, il n'y avait jamais. Depuis bientôt 4 ans, on est dirigé par le PiS, et de l'argent a été dépensé pour améliorer le bien-être des gens, et jusqu'à preuve du contraire, la Pologne marche bien économiquement.
Ce qu'aime à répéter Jarosław Kaczynski, il a vaincu, dit-il, l'impossibilisme et remis à l'honneur cette devise si chère au cœur de la famille de Darek. Dieu, l'honneur et la patrie. Indissociable.
Pour nous qui sommes croyants, la religion, c'est plus que la religion. C'est aussi la patrie. Nous sommes passés par des périodes de l'histoire où c'est simplement parce que nous avons su nous rassembler dans la religion catholique que nous avons survécu. Nous avons survécu comme nation au rouleau compresseur soviétique. Et pour nous, la religion, c'est un sentiment d'unité nationale. C'est très fort.
Et cette Pologne rurale applaudit sa dignité retrouvée, pas seulement la dignité économique, mais aussi celle de la nation qui redresse la tête et fait entendre sa voix à Bruxelles. Mais à quel prix ? Celui d'un pays divisé, s'inquiète Johanna. Elle est revenue récemment à Varsovie pour y passer sa retraite.
La Pologne est complètement partagée en deux et les familles sont partagées. C'est terrible, la réunion familiale. On interdit, moi, quand la famille vient, je mets en plaisantant, pas de religion, pas de politique. À ce point-là, on est devenu ennemi de nous-mêmes. Ça arrive jusqu'à la haine dans les familles. On ne se reçoit plus. Et c'est le gouvernement qui a fait ça. Parce qu'à la télévision, côté PiS, c'est la haine qui est de leur bouche. Monsieur Kaczynski, il s'est permis de dire que les gens qui ne sont pas de leur avis, c'est les gens de deuxième ordre. C'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Les Polonais contre les Polonais. Tu n'es pas de ce nous, alors tu ne comptes pas. Jamais j'ai connu ça avant.
C'est Marie-Pierre Véraud qui signe pour nous ce reportage. Ludovic Pelletier-Coutati, moi j'entends ça et j'ai l'impression d'entendre ce qu'on a entendu tout à l'heure en première heure au sujet de la Hongrie, au fond, l'énorme division. Nous sommes devenus ennemis de nous-mêmes, dit cette dame. Est-ce que vous diriez la même chose au fond de la Hongrie? Ça, c'est quelque chose qui est très commun à vos deux pays, non?
C'est vraiment vrai parce que on a quand même des pouvoirs qui ont un petit peu trahi l'esprit du post-communisme qui était d'une certaine façon au sein de l'élite d'accompagner le changement démocratique en respectant d'une certaine façon l'opposition. Alors on a quand même des traditions politiques assez violentes dans le débat, hein, ça, mm-hmm. c'est vrai. Mais c'est vrai que ce qu'on voit en Hongrie, c'est des familles qui se déchirent sur le Fidesz, c'est des clivages qu'on retrouve. Donc il y a un clivage générationnel très fort, il y a des clivages sociologiques très forts, des clivages géographiques très forts. Et c'est vrai que le niveau d'adhésion aux idées du PiS ou du Fidesz est au moins équivalent, proportionnel au niveau de rejet que ces partis peuvent susciter. Donc on a vraiment des pays qui sont très très polarisés sur le plan politique.
Et ce que j'entends aussi, pardon, finissez Ludovic.
Non, j'ai juste lu avant de venir un sondage qui est paru dans Okopres, donc un site d'information polonais, par exemple sur la question de la place de l'enseignement religieux à l'école. Les électorats du PiS et de, par exemple, de Wiosna, le parti de Robert Biedron, qui est la nouvelle figure un peu montante social-libérale, très progressiste en Pologne, sont vraiment front renversé sur ces questions-là. Chez Biedron, ça, la volonté d'exclure le religieux de l'école monte à 90% de ses électeurs, alors que du côté du PiS, on tombe plutôt autour de 20%. Sur cette question-là.
Ce que j'entends aussi en similitude, Florence Labruyère, c'est l'idée de la dignité retrouvée, en fait. L'idée qu'il faut replacer, au fond, le centre de gravité, le cœur de l'Europe, c'est nous. Replaçons ce centre de gravité, c'est aussi ce que j'entends dans les deux pays.
Oui, ça a toujours été le discours de Viktor Orban.
Allez-y, Florence, allez-y.
Oui, et il y a une forme, je dirais, de nationalisme sain, en fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce nationalisme du gouvernement va de plus en plus vers le souverainisme et vers carrément des théories d'extrême droite. Il faut bien se rendre compte que Viktor Orban, en fait, au pouvoir, eh bien, c'est un peu comme si l'extrême droite était au pouvoir chez nous. Hein. C'est un petit peu ça aujourd'hui.
Alors, malgré tout, et on parlait de cette dignité retrouvée, on parlait de ce que cette classe moyenne, en fait, a retrouvé. Ludovic, là par exemple en Pologne où nous sommes, malgré tout, et ça aussi c'est un point commun, une émigration, c'est-à-dire un départ des cerveaux, un départ des élites qui est extrêmement importante. On va l'entendre en reportage dans un instant, mais ça c'est un vrai souci, y compris pour les Polonais, bien sûr.
Complètement. Alors les Polonais, pour le coup, ils ont une vieille tradition d'émigration. C'est vrai que la Polonia, comme on appelle la diaspora polonaise dans le monde, est particulièrement fournie. La Hongrie, c'est nouveau, hein. C'est vraiment un phénomène qui remonte. Qu'on peut pas complètement imputer à Orban, partiellement, qu'on peut largement imputer à la crise des devises, à la crise financière qui a suivi. Il y a tout un contexte qui a favorisé ça, l'endettement des ménages notamment. Mais par exemple, il me semble que les chiffres tournent autour de 500, 600 000, on sait pas très bien, départ de Hongrois à l'étranger pour aller en Allemagne.
C'est de 10 à 1 million, les chiffres varient. Ouais.
C'est ça. Les fourchettes sont assez larges pour aller au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche.
Alors moi j'ai un autre chiffre pour vous, c'est 25 000, c'est le nombre de médecins ou jeunes médecins polonais qui ont décidé d'aller tenter leur chance ailleurs. C'est le reportage de Marie-Pierre Véraud. Vous allez entendre tout de suite ce que ça donne et ce que ça veut dire.
Je m'appelle Yan-Jen Shum, je suis en quatrième année de médecine dentaire. Je m'interroge sur un éventuel départ. J'ai de la famille en Autriche. Ma tante est dentiste là-bas et je pourrais aller chez elle. J'ai aussi réfléchi à partir sur un contrat en Arabie Saoudite pour acquérir de l'expérience et un pécule avant de revenir ici.
Mmh.
Les jeunes médecins polonais fuient des salaires de misère, 500 à 600 euros pour un interne. Résultat, la Pologne connaît un taux de couverture parmi les plus faibles d'Europe, avec 2,2 médecins pour 1000 habitants. Nombre de futurs diplômés n'ont qu'une idée en tête, aller exercer ailleurs. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent, comme l'explique Oscar Leyer, étudiant en quatrième année de médecine.
Je m'appelle Oscar Leyer. Je suis en quatrième année de médecine et je prends déjà des cours d'allemand pour partir après mes études et pouvoir faire ma spécialisation en Allemagne. Je vais faire dermatologie et vénérologie. Et en Pologne, il n'y a que 10 places pour 4000 étudiants. Mais c'est bien cela que je veux faire. Je n'ai pas envie de perdre mon temps dans une autre spécialité. Alors, je vais m'expatrier.
La Pologne manque cruellement de spécialistes. Il faut attendre plus d'un an parfois pour une simple opération de la cataracte ou une prothèse. Il serait 25 000 à exercer à l'étranger selon l'ordre des médecins polonais, mais tous ne s'expatrient pas. Les jeunes médecins qui avaient mené un mouvement de fronde et de grève de la faim inédit à l'automne dernier entendent recommencer pour que la part du PIB consacrée à la santé en Pologne ne soit pas deux ou trois fois moindre qu'en France ou en Allemagne.
Marie-Pierre Véraud pour ce reportage avec les médecins polonais. Ludovic Pelletier-Coutachy, ça devient un vrai problème pour ce pays, ces départs-là, ce genre de métier-là, parce que derrière, ça veut dire une santé qui peut être dans certains endroits au rabais, ça veut dire qu'on manque de spécialistes, on l'a entendu, ça veut dire qu'on manque de beaucoup de choses.
Ah oui, en Hongrie, la question des médecins, du système de santé, elle est criante. On a vraiment une érosion des talents, entre guillemets. Alors ça concerne à la fois les très diplômés, mais également les artisans, des métiers qualifiés en général. Et c'est vrai que ça pose question parce que on pourrait penser que c'est l'espace européen ouvert qui génère ce genre de phénomène, mais on voit également dans les Balkans se vident aussi de leurs jeunes. On a vraiment des phénomènes de métropolisation très très marqués à l'ouest. Et la question du maintien des populations jeunes dans ces pays-là, elle est complètement posée.
Il y a une dernière question que je voudrais aborder avec vous avant qu'on change totalement de pays et qu'on fasse peut-être un petit aller-retour musical aussi. Je voudrais savoir comment le Brexit est vécu par ces deux pays-là. Est-ce que, parce que l'Angleterre était un allié de poids, en fait, l'Angleterre était même, y compris au Parlement d'ailleurs, là pour pousser ces pays-là. Aujourd'hui, comment on voit, aussi bien côté polonais que hongrois, comment on voit ce départ des Britanniques ? Est-ce que ça va être un vrai souci ?
Alors sur le plan politique, effectivement, on se rappelle lors des débats du Brexit de la campagne, Viktor Orban avait fait financer une publicité dans les journaux britanniques pour convaincre les électeurs de voter contre le Brexit. Et c'est vrai que dans les débats européens, la Hongrie comme la Pologne ont perdu des alliés importants, notamment face au couple franco-allemand, notamment face à tous ces pays qui veulent un approfondissement politique et social de l'Union européenne. Et d'ailleurs, là, la Pologne a pris la tête d'une initiative avec, il me semble, 16 pays membres pour justement porter la nécessité que l'Europe reste un marché libre et contre les velléités protectionnistes de l'Allemagne et de la France.
Alors, Florence Abruyère, en un mot.
Du point de vue des citoyens, je voulais juste dire un mot. Allez-y. Il y a énormément de Hongrois qui habitent au Royaume-Uni et ils sont tous en train de demander la nationalité britannique ou irlandaise, en fait. Voilà, on va rester.
Une des conséquences du Brexit dont on ne parle probablement pas assez, qu'on n'imagine peut-être pas d'ailleurs, celle avec l'Europe centrale. On reste ensemble, nous partirons pour la Roumanie et aussi pour l'Autriche. Juste après ça, voici les raconteurs. Après tout, nous aussi, on est des raconteurs. How that you're gone.
Where you gonna go? Not that that I care. And who can you trust now that I'm not there? Never known such unhappiness. Now that you're gone, now that you're gone. And what will you do now you're all alone? Who's gonna keep you warm? Now that you're gone. Now that you're gone.
Je sais pas si on écoute beaucoup les raconteurs à Budapest, Ludovic, on écoute beaucoup les raconteurs ?
Je ne connaissais pas.
Eh ben voilà, ben maintenant vous connaissez, allez.
Un jour dans le monde, en direct de Budapest, sur France Inter.
En direct de Budapest, mais on la traverse un peu, cette Europe centrale est un peu au-delà. On sort de la Hongrie, on sort de la Pologne, on va entrer en Roumanie, en partie grâce à vous, Angélique Boin, la photo habituelle de ces pays qu'on traverse. Il y a quelque chose qui est terrible quand on songe à la Roumanie quand même, c'est, on l'a redit récemment puisqu'ils sont entrés, ils dirigent l'Union en ce moment. On dit Roumanie, on dit corruption, c'est terrible pour eux, mais n'empêche que c'est vrai que ça... Enfin, j'allais dire ça va ensemble, c'est terrible, mais on parle que de ça.
Écoutez, d'abord, il faut redire que c'est l'un des pays les plus pauvres de l'Union, avec la Croatie, la Bulgarie. Effectivement, la corruption dans ce pays est endémique. Et du coup, ce pays, il a un statut particulier depuis son entrée dans l'Union européenne. Et ben, il est sous surveillance, hein, avec un mécanisme de vérification qui permet en fait aux institutions de Bruxelles de contrôler la lutte anticorruption et l'instauration d'un véritable état de droit. Alors, c'est évidemment pas gagné, parce qu'au pouvoir en Roumanie, en ce moment, il y a l'homme fort qui s'appelle Liviu Dragnea. Il dirige pas le gouvernement parce que il a lui-même été condamné à la prison. Il est visé dans des dossiers de corruption. L'un qui est quand même lié à des soupçons de détournement de fonds européens. Quand il était un élu régional, hein, il est soupçonné par l'OLAF, hein, l'organisme qui lutte contre la corruption.
Et on parle de 21 millions, Angélique.
21 millions d'euros. Hein. Alors il n'est pas le premier ministre, mais c'est quand même le dirigeant de fait. Il a mis à la tête du gouvernement une femme qui s'appelle Viorica Dăncilă, mais qui dirige pas vraiment. Hein, c'est lui. Et puis il y a une cohabitation explosive avec le président de centre droit, Klaus Iohannis, qui est lui, eh bien, un europhile, donc c'est compliqué. Et puis au milieu de tout ça, le gouvernement est au cœur d'un bras de fer avec Bruxelles, un peu comme la Hongrie évidemment et la Pologne sur les réformes de la justice, parce que le gouvernement s'attaque à l'indépendance des juges, donc c'est extrêmement compliqué. Un mot des aides européennes dans ce pays, hein, on est à 220 euros par an et par habitant de fonds structurels, donc qui sont très surveillés. Et puis le niveau de vie moyen, c'est un chiffre intéressant, 6 fois moins élevé qu'au Luxembourg, hein, chiffre INSEE.
On va partir en reportage en Roumanie, juste une dernière remarque, Angélique, rapide. On se souvient, pour aller dans le sens de ce que vous disiez, de la manière dont Jean-Claude Juncker a accueilli, d'une certaine façon, la présidence européenne de la Roumanie en leur disant, c'était très très froid, vous n'êtes pas à la hauteur.
Oui, en décembre, quelques jours avant la prise de cette présidence européenne par les Roumains, il explique qu'il émet des doutes dans une interview entre Noël et Nouvel An, quand même, c'est chaud, pour expliquer qu'il n'est pas sûr que les Roumains sont capables de présider l'Union. Puis finalement, ça s'est fait, mais c'est vrai que ça a jeté un très grand froid entre, évidemment, les deux capitales.
Alors, corruption endémique, population extrêmement pauvre, difficulté à avoir accès à beaucoup de choses, beaucoup de services publics et notamment les soins, on y revient. Je vous emmène dans un hôpital et vous allez voir, ça donne pas envie de tomber malade en Roumanie, très sincèrement. C'est un reportage signé Paul Cossiguian.
La situation des hôpitaux publics ici est très préoccupante. Près de 1000 morts chaque année dues à des infections nosocomiales. Pour pouvoir honorer des salaires qui ont doublé du jour au lendemain, les managers opèrent des coupures budgétaires dans les acquisitions des médicaments et du matériel chirurgical d'unique utilisation. Souvent, c'est les patients qui doivent fournir eux-mêmes leur traitement. Mariana Lucianu est une infirmière lanceuse d'alerte qui vient de perdre son emploi pour avoir osé critiquer le système. Elle nous raconte que dans son bloc opératoire, on lave les salles d'opération avec du liquide vaisselle et on stérilise le matériel avec du décap four. Mariana se bat depuis bientôt 3 ans pour faire lumière sur ces pratiques moyenâgeuses.
Les tables d'opération sont très vieilles, elles sont rouillées, imbibées de sang depuis tant d'années. C'est pénible, des bombes biologiques. Et à l'heure actuelle, croyez-vous qu'on ait fait grand-chose? Juste un coup de peinture et du recollage de sol. Le principal bloc opératoire est fermé depuis 10 ans pour rénovation et consolidation. Elles sont là, les fuites du système.
Les fuites du système sont en réalité des commissions occultes versées aux fournisseurs qui travaillent main dans la main avec les décideurs politiques. Or, la grande majorité des managers qui exercent souvent à vie ce métier le font à condition de continuer à entretenir ce genre de pratiques. Vlad Voiculescu, cet ancien ministre technocrate de la Santé, qui a voulu justement réformer le système, en sait quelque chose.
Le service public est de moins en moins de bonne qualité, principalement à cause des conflits d'intérêts qu'on constate à tous les niveaux.
Ce qui est tout à fait inacceptable à ses yeux, c'est qu'un nombre important de managers d'hôpitaux sont aussi médecins au chevet des patients, cadres universitaires et souvent patrons de leur clinique privée, à se demander quel est réellement leur intérêt principal.
Il existe en Roumanie, dans le système sanitaire, de nombreux cas de corruption, partant des équipements qui ont coûté des millions d'euros et qui n'ont jamais été fonctionnels, et jusqu'au conditionnement de l'acte médical au versement de pots de vin. Il existe des patients qui, pour survivre, ont été obligés de vendre leurs biens et parfois même leur maison.
Malgré le fait que les jeunes médecins et infirmiers n'acceptent plus recevoir de l'argent des malades, la peur d'un mauvais traitement est tellement grande que cette pratique risque de perdurer encore longtemps dans ce pays.
Ce qui est quand même moyennement rassurant, Paul Kosigian, pour le reportage. Merci Paul. Un dernier mot sur la Roumanie, Angélique, si vous le voulez bien. On parlait de l'article 7 tout à l'heure concernant la Pologne et pas tout à fait la Hongrie, mais il y a un troisième pays qui intéresse l'article 7, c'est la Roumanie, justement.
Oui, parce que la Roumanie a des remontrances permanentes, justement, sur ses projets de réforme de la justice et qui, évidemment, pose des questions d'état de droit. Alors, ce qu'on réalise quand même à Bruxelles actuellement, c'est que le déclenchement de cette procédure est intéressante. On a cru que c'est un peu l'arme nucléaire. On a cru que ça ferait bouger, ça fait pas bouger. Cette procédure, elle a très peu de chances d'aboutir. Elle a été votée par une majorité des 4/5 des États membres pour la lancer. Mais pour pouvoir sanctionner un pays, il faut qu'il y ait l'unanimité. Or, la Hongrie et la Pologne ont décidé qu'ils se soutiendraient mutuellement. Donc, de toute façon, on n'ira pas au bout. Donc, la Commission, elle a eu une idée sur le prochain budget pluriannuel post-2020. Eh bien, elle est favorable à un mécanisme qui conditionnerait les aides européennes, donc les fonds dont on a parlé depuis le début de cette émission, au respect de l'état de droit. C'est actuellement en débat, mais il y a pas mal de pays fondateurs de l'Union européenne qui sont favorables.
Angélique, je vous presse parce qu'il nous reste 5 minutes pour aller en Autriche. Alors on quitte un peu l'Europe centrale mais on suit le Danube et on va se retrouver à Vienne. Ça nous permettra de boucler la boucle parce qu'on va parler migrants à nouveau. Juste en un mot, une petite photo, alliance droite, extrême droite. Oui. En Autriche.
Depuis 2017, Sébastien Kurz, qui a 32 ans, conservateur, membre du PPE, qui est majoritaire le groupe au Parlement, avec un gouvernement de coalition avec l'extrême droite du FPE, de son vice-chancelier, donc, et effectivement un pays au carrefour de l'Europe, qui est un bon thermomètre des hésitations européennes en matière de libre circulation. C'est une question.
Alors, et une obsession migratoire, je disais ça tout à l'heure au sujet de la Hongrie, qui peut être un peu similaire en Autriche. On y va, on part à Vienne, grâce à Isoria, si on se retrouve après.
C'est l'un des plus anciens cafés viennois, toujours aussi populaire près de 2 siècles après sa création. Le café Eyeless emploie aujourd'hui 25 personnes, dont 5 réfugiés. Une évidence pour Gert Kunze, propriétaire et gérant.
Si je n'avais pas de réfugiés, je ne pourrais pas ouvrir mon café. L'idée que ces gens prennent le travail des Autrichiens est fausse. La réalité, c'est que les Autrichiens ne veulent pas occuper certains emplois.
Paré de son habit de serveur, Kadir Anvari chouchoute ses clients. Ce jeune homme de 23 ans, originaire d'Afghanistan, a trouvé refuge en Autriche. Il travaille au café Ailes depuis 6 ans.
Je crois qu'il y aura toujours des emplois pour les réfugiés. La clé, c'est la langue. Quand tu maîtrises la langue, tu peux trouver un travail. Tu peux avoir un logement. Tu peux faire tout ça. Moi, en tout cas, j'y suis parvenu.
Mille postes sont actuellement vacants en Autriche. Un manque de candidats qui se fait sentir dans certains secteurs spécifiques comme le tourisme, mais pas seulement, précise Johannes Kopp, co-directeur de l'AMS, le pôle emploi autrichien.
Nous manquons de main-d'œuvre pour de nombreuses professions industrielles et pour des métiers artisanaux comme maçon, plombier ou couvreur. En raison de la situation démographique, ce manque de main-d'œuvre pourrait s'aggraver à l'avenir. C'est pour cela que nous devons redoubler d'efforts pour transmettre notre langue aux réfugiés, pour les former, afin qu'ils puissent contribuer à l'économie autrichienne.
Appel entendu par le gouvernement autrichien qui le met toutefois dans l'embarras, car cette coalition droite-extrême droite s'est fait élire il y a plus d'un an sur un programme anti-immigration, mais est aujourd'hui bien consciente des besoins du pays, comme l'explique l'économiste Judith Kohlenberger.
Le discours du gouvernement repose sur une rhétorique anti-immigration très dure, mais en même temps, il sait que l'Autriche a besoin des migrants d'un point de vue économique. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment le gouvernement va pouvoir vendre à l'électorat l'idée que nous avons besoin d'attirer des migrants, que si nous ne les intégrons pas le plus vite possible au marché du travail, la production chutera et que cela conduira à plus de chômage en Autriche.
30 000 réfugiés sont aujourd'hui inscrits à l'AMS en attente d'un emploi. 10 000 d'entre eux ont moins de 25 ans.
Voilà pour le reportage signé Isorias à Vienne. Angélique, bon, il y a une chose, et ce sera pour conclure parce que ça nous permet de boucler la boucle. Il y a une chose qu'il faut dire, on l'a entendu, grosse politique anti-migrants en Autriche. Et en même temps, quand ici, en Hongrie, on a un Viktor Orban qui met Jean-Claude Juncker et Soros sur la même affiche en disant « attention, l'Europe, les migrants, etc. », là, Kurz dit « oh là ». Pas si vite, moi, je vais pas si loin que ça.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, cette campagne, notamment qui vise nommément Jean-Claude Juncker, hein, le président de la Commission européenne, membre du PPE, pose un vrai souci de valeur au groupe. Donc le groupe PPE au Parlement est divisé sur la question. Et en ce moment, la question qui se pose, c'est va-t-on exclure Orban et Fidesz du PPE ? La question se posera lors en marge du prochain sommet de mars, le 21. Et effectivement, ça pourrait polluer la campagne des Européennes de garder Viktor Orban au sein du PPE. En même temps, certains disent qu'il faut mieux l'avoir au sein du groupe des conservateurs plutôt que de le laisser se rapprocher des nationalistes et des populistes dont on redoute le poids dans le futur Parlement.
Et Ludovic Pelletier-Coutacci, puisque vous avez passé beaucoup de temps avec nous, merci beaucoup. Je vais vous laisser le mot de la fin là-dessus. On a l'impression qu'il met la main sur le fourneau pour voir si c'est chaud, Viktor Orban, au fond. Jusqu'où je peux pousser ? Tiens, je pousse encore un petit bout pour voir, en fait.
C'est ça. Ben, on a l'impression qu'il essaye de tirer le PPE un maximum à droite. De toute façon, lui, il a tout intérêt à ce que l'Europe soit ultra conservatrice, donc que ce soit dans le PPE ou à l'extérieur.
Allez. Merci à tous, merci vraiment pour ce 18-20 spécial Europe centrale. On va se retrouver dans 3 semaines, on parlera d'Europe du Nord, on parlera des Pays-Baltes aussi. Merci au Café Golia qui nous a merveilleusement accueillis. Merci à Marcos Daras, merci à Jean-André Giannichini, pardon, Jean-André, c'est pour la technique, à Fabrice Slegle et à Amélie Stadelmann sur France Inter. Comme ailleurs, il est 20h.